Montpellier, sur Internet, à la radio, sur votre téléphone et en DAB+, il est 13h sur Radio Aviva. Radio Aviva, le Flash Info.
Bonjour à tous. Le président chinois Xi Jinping arrive aujourd'hui en France. Une visite d'État qui commencera officiellement demain. Il sera accueilli à l'Élysée où une réunion est prévue en présence de la présidente de la Commission européenne. Les deux présidents s'entretiendront aussi en tête-à-tête avec au programme l'Ukraine, la situation au Moyen-Orient et les questions commerciales ou encore l'urgence climatique. Mardi, les deux chefs d'État se rendront dans les Hautes-Pyrénées pour une séquence plus personnelle, précise l'Élysée. Emmanuel Macron qui condamne avec la plus grande fermeté les blocages à Sciences Po et dans les universités menés par des manifestants pro-palestiniens. Des actions qui, selon lui, empêchent le débat. C'est ce qu'il déclare dans un entretien à La Provence et La Tribune dimanche. Emmanuel Macron évoque également les élections européennes. Il souhaite que le Premier ministre s'engage au maximum dans la campagne. La tête de liste de la majorité, Valérie Ayé, est à la peine dans les sondages. Son décès est devenu le symbole du débat sur les violences policières. Une reconstitution autour de la mort de Naël est organisée aujourd'hui à Nanterre. L'adolescent de 17 ans a été tué par un tir de la police lors d'une interpellation. Cette reconstitution doit notamment permettre de déterminer si le policier concerné a agi en légitime défense. L'agent est mis en examen pour homicide volontaire, placé sous contrôle judiciaire. Son collègue est placé sous le statut de témoin assisté. Des rassemblements prévus dans une quarantaine de villes en France contre la transphobie, manifestation organisée à l'appel de plusieurs collectifs et personnalités politiques, intellectuelles ou artistiques. Ils dénoncent une offensive transphobe dans leur collimateur, notamment un rapport sur la transidentification des mineurs, rapport rédigé par le groupe LR au Sénat. Des associations voient dans ce texte un retour des thérapies de conversion, ce que les auteurs de ce rapport démentent. Et puis un concert historique devant plus d'un million et demi de spectateurs. Madonna a clôturé la tournée de ses 40 ans de carrière hier soir avec un concert sur la mythique plage de Copacabana au Brésil. Les autorités estiment les bénéfices pour l'économie locale à 53 millions d'euros. Très bon dimanche à notre écoute.
Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire?
Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu sais ce que c'est.
Faites-moi confiance, je suis un professionnel.
Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle semaine qui commence pour Éclectique, votre rendez-vous quotidien en début d'après-midi. Une émission faite de curiosités sonores, de créations radiophoniques internationales, d'archives oubliées. Ce sera le cas en toute fin d'émission où nous avons retrouvé un enregistrement d'Angèle, le film de Marcel Pagnol, mis en onde pour la radio. Toute cette semaine, nous nous intéresserons à des chansons internationales, souvent en anglais à l'origine, reprises en français. Vous allez voir, ça donne des choses étonnantes. Et puis tout de suite, après notre première pause musicale qui nous parle de Taco, nous reviendrons sur un album mi-texte, mi-dessin qui s'appelle Les Chaim. C'est parti pour 30 minutes, installez-vous tranquillement, ce moment, il est pour vous.
Taco !
Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
Caballito muy curioso, pero mucha gente piensa que es un burro pretencioso. Comiendo. que sueño, yo cantando te despierto.
C'est l'argent ici ?
Je ne crois pas, non. C'est l'argent de la France. Et je ne peux pas me permettre de le laisser à n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, ne le prenez pas pour vous. N'allez pas croire que je n'ai pas confiance par rapport à ce qu'on dit sur les juifs et l'argent. Ça n'a rien à voir.
Voulez-vous voir votre chambre, monsieur Flantier ?
Oui.
La recommandation du jour.
Les Chaïm. C'est ce que les juifs du monde entier disent en portant un toast, en levant un verre. Provenant de l'hébreu, l'Echaïm est généralement traduit en français par « à la vie », mais il serait plus juste de dire « aux vies » en utilisant le pluriel. Car, il faut bien l'admettre, il a fallu plus d'une vie au peuple juif pour survivre aux massacres et aux persécutions multiples qui ont rythmé son histoire depuis la destruction du premier temple jusqu'à aujourd'hui. L'Echaïm, c'est aussi le titre d'un livre sorti ces jours-ci aux éditions Clair de Lune et qui évoque ces différents moments de l'histoire juive dans une série de contes, de légendes et de récits, pour la plupart inédits. Boris Tcherny, l'un des co-auteurs, nous explique le projet.
Le but du livre, c'était de ne pas rééditer ou de ne pas faire un énième livre avec toujours les mêmes contes juifs, mais véritablement d'aborder les passages inédits, peu connus sur l'histoire juive, comme l'importance qu'a eu le passage de Napoléon en Russie pour les communautés juives, ou d'autres passages concernant la Shoah, par exemple, parce qu'il y a eu des contes aussi qui ont été écrits pendant la Shoah, et puis aussi des contes sur les villes de Carpates avec leur rencontre avec des bandits. C'était véritablement montré des passages et des aspects inédits.
Dans cet ouvrage sont illustrés différents moments de la longue histoire du peuple juif, parfois sous forme de bandes dessinées, parfois de récits joliment illustrés. Un album hybride en quelque sorte.
C'est un album qui s'adresse à différents publics. Les enfants et les jeunes regarderont les bandes dessinées et les dessins, les adultes aussi. Et puis ceux qui voudront chercher un matériel un peu plus critique, un peu plus scientifique, tout en étant légèrement scientifique, mais ils trouveront également matière à réflexion et à s'éduquer ou à confirmer ce qu'ils savent sur différents points d'histoire. Voilà, donc vraiment un livre à plusieurs strates, à plusieurs niveaux de lecture, hein, comme convient pour un livre juif, je crois.
Le Maharal demanda à son gendre, qui portait le titre de Cohen, dévolu à ceux qui assurent les offices, de tourner 7 fois autour du golem, en se concentrant sur certaines lettres. Il fit la même avec son disciple, la tribu des Lévites, celui qui avait la charge des prêtres et de l'enseignement de la Torah dans la maison d'Israël. Enfin, le Maharal effectua à son tour les 7 akaphot autour du golem inerte.
Ce qui frappe quand on lit cet ouvrage, c'est l'incroyable sentiment de joyeuseté, de gaieté, d'énergie qui en émane, que ce soit par les formidables illustrations de Giovanni Rigano ou le choix astucieux des différents passages de l'histoire juive, cet album respire la joie de vivre.
Très vite, dès que j'ai abordé ce problème de l'étude du monde juif, en Russie en particulier, j'ai tout de suite fixé comme horizon d'aller vers la vitalité, vers la vie, et non pas vers la mort, puisque nous sommes un peuple, je crois, le peuple juif est un peuple traversé par la vitalité, donc plutôt que de se complaire dans la mort, aller vers la vie, la vitalité, le dynamisme. Moi, je suis frappé dans les travaux auxquels je collabore et dans les travaux que je peux lire, d'un souci de mes collègues d'aller vers la vie, hein, d'aller vers la mise en avant de la vitalité du peuple juif, hein, y compris dans les moments les plus difficiles. Voilà. Et c'est un phénomène qui est très important, en particulier dans les études sur ce que je connais le mieux, sur la Biélorussie, sur l'Ukraine, c'est-à-dire de s'intéresser aux plus petits détails de la vie, des localités, des régions, etc. Donc ça me paraît très très important, oui. Y compris dans les recherches sur la Shoah et l'Holocauste, hein. De mettre en avant non pas la facilité, non pas le fait que oui, il y a eu tant de morts, oui, nous avons subi, etc., mais de manière, la manière de montrer dont nous avons su, dont les juifs de l'époque ont su résister et su mettre en avant la puissance de vie qu'ils avaient en eux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important, un courant très important que je ressens actuellement. Oui.
Outre des récits assez connus comme ceux du roi Salomon ou du Golem, vous serez certainement séduit par des rencontres inattendues dans un tel ouvrage avec Napoléon ou Trotsky. Signé Boris Cherny et Frédéric Brémaud pour les textes et Giovanni Rigano pour les dessins, L'Héraïm est sorti aux éditions Clair de Lune, une bonne idée de cadeau.
Éclectique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
Cette semaine, nous nous amuserons à écouter une version d'une chanson initialement écrite en anglais et traduite en français. Aujourd'hui, Fever, la chanson de William Willie Jones, enregistrée initialement en 1956. Elle a été reprise régulièrement par des artistes. Peggy Lee en 1958, Elvis Presley en 1960 et même dans une version parodique par le Muppet Show en 1978. Mais aujourd'hui, c'est la version en français par Katharina Valente que nous allons entendre. Donc, Fièvre.
Jamais je ne pourrais te dire tous les faits que tu me fais. Dès que tu me donnes tes lèvres, mon sang me mord et tout se met à tourner. 39 de fièvre. Circule comme dans les marmites de l'enfer. 39 et je brûle, je sens flamber la fièvre.
tonnes de neige. Pas besoin de feu de bois. Dès que tu viens dans ma chambre, presque aussitôt je sens changer le climat. 39 fièvres, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Lancelot connu Guenièvre, qui reçut un drôle de choc quand il lui dit d'un ton mièvre, dans le jargon que l'on causait à l'époque. 39 de fièvre, je le jure, Eros m'a percé de son dard. Et sous mon armure, je suis en train de cuire comme un homard. Napoléon voit Joséphine, il en reste tout gâteux. En cherchant son thermomètre, il chante en Corse, j'aime tes grands yeux. 39 de fièvre, ça circule comme dans les marmites de l'enfer. 39, ouh, et je brûle, je sens flamber la fièvre dans mes nerfs. Et la morale, c'est que les filles, centigrades ouvrées au mur, c'est fait pour donner la fièvre. Et peu importe l'instrument de mesure, 39 de fièvre. Façon de brûler, oh, quelle jolie façon de brûler.
Éclectique, Radio Aviva, Xavier Nataf.
Thank you.
le feuilleton de la semaine.
Il est l'heure pour nous de retrouver le feuilleton de la semaine. Jusqu'à vendredi, nous nous intéresserons à Angèle, un film de Marcel Pagnol de 1934, d'après le roman Un de Beaumugne de Jean Giono. Une archive radiophonique où nous retrouvons les voix de Fernandel, Aurane de Mazis, Andrex et Belmont. Angèle, c'est probablement l'un des plus beaux films de Marcel Pagnol, dans laquelle on retrouve un Fernandel d'à peine 30 ans, où le public découvre l'étendue de son talent.
Une petite ferme, une toute petite ferme de Provence, qu'exploite seul avec son valet Saturnin, maître Clarius Barbaro. Saturnin, enfant de l'assistance publique, a été placé très jeune chez Clarius et Philomène Barbaro. Aussi des liens d'affection quasi fraternels, l'unissent-ils à Angèle, la fille de la maison. Pour elle, rien ne saurait être trop beau. Elle est en âge de se marier, mais aucun des jeunes paysans des environs ne saurait être digne de l'épouser. Ce qu'il lui faut, pense Saturnin, c'est un garçon de la ville, un monsieur. Et voilà justement qu'un jour où Angèle va au village et qu'elle passe devant la terrasse du petit café...
C'est une poupée comme ça qu'il me faudrait à moi.
Tu n'es pas dégoûté, toi.
Cette fille-là, qu'est-ce que tu en fais? Tu ne gagnes pas assez pour la nourrir.
Oh, pauvre Santan. Mais c'est pas pour la nourrir que je la voudrais. Ce serait plutôt pour qu'elle me nourrisse. Dis donc, il est jeune, le gars de la montagne, hein. Cette cochonnerie de travail, ces tracteurs, ça... Ça fait trop de bruit, ça. C'est pas fait pour moi, hein, non. C'est pas une vis. Il faut être l'andouille, né de l'andouille pour s'accoutumer. C'est bon pour toi. Et moi, je suis de la martiale, je sais nager. Ce qu'il me faudrait, tu vois, c'est une femelle dans le genre de celle-là. Ça, mon vieux, c'est de l'or. Tu payerais pour 500 balles de fringues d'étalage, des deux sous d'attaque, un promenoir à l'Alcazar, et aller jouer au boulot, un jour dans l'autre. Ça te rapporterait dans les 300 balles, tu pourrais payer.
Et le gars de la ville, qui se fait des accroche-cœurs et se parfume à bon marché, obtient de la jeune fille un rendez-vous le soir, derrière la ferme paternelle.
Je vous dis, mademoiselle, parce que je ne sais pas votre nom.
Mais il n'est pas joli, mon nom.
C'est Marguerite ?
Non.
Lucienne ?
Non.
Marie ? Alors c'est Joséphine.
Angèle.
Angèle ? Et vous dites qu'il n'est pas joli ? Mais dites, c'est un joli nom, Angèle, vous savez. Vous ne le voyez pas parce que vous en avez l'habitude. Mais moi... Je le trouve merveilleux, Angèle. Moi, je m'appelle Louis.
J'ai un cousin qui s'appelle Louis.
C'est un nom qui vous plaît?
Oh, vous savez, le nom des hommes, ils se ressemblent tous. Adieu, monsieur Louis. Et ne revenez plus ici pour me faire des misères.
Et moi, je vous fais des misères?
Oh, je dis pas que vous m'en faites, mais vous voudriez bien m'en faire. Alors, adieu.
Alors, adieu. C'est pour toujours?
Mon père! Les vieux gardes, s'ils le voient. Venez. Mais baissez-vous !
C'est un beau parleur, Louis. Et les jeunes filles ne demandent qu'une chose, croire les paroles d'amour qu'on leur dit.
Il est l'heure pour nous de conclure. J'espère que vous avez passé une bonne demi-heure en notre compagnie. Je vous donne rendez-vous demain début d'après-midi sur Radio Aviva. Je vous laisse en compagnie de mes petits camarades de la station et vous souhaite un bon après-midi.
Aviva, bon week-end !
Bon week-end !
Il mélange au fond de sa tasse du miel. Il regarde par le vasistas le ciel. À chaque fois que passe un avion, il se dit que c'est peut-être elle qui passe au-dessus de sa maison. On lui a dit qu'elle était au ciel. Il rêve couché sur un parquet dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait. Ce dessin, il le fait. câlin, il en voudrait tellement. Ne serait-ce qu'un parent. Il rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin il le fait.
Fidèle chaque jour pour la musique, l'info, les proximités. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour nous écouter. Désormais, nous vous retrouvons aussi en DAB+. Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM. Je vais adorer l'écouter en DAB+.
Hérosport vous présente l'invité sportif sur Aviva.
Amis sportifs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de recevoir M. Richard Gougis, journaliste régional, et qui, dans un article de mercredi, nous a révélé vraiment un article complet, où on est éclairé sur les prochaines lois, la loi qui vient de sortir. Richard Gougis, bonjour tout d'abord et merci de nous avoir accepté cette invitation.
Oui, bonjour Sidney. Alors journaliste à Midi Libre, hein, je précise même si...
Tout à fait, mais vous avez bien raison de le préciser, car l'article que l'on a vu est très complet sur Midi Libre, hein, du mercredi. Et Richard, dites-nous un petit peu, cette loi, à la suite des incidents de Mademoiselle Abitbol, dites-nous-en davantage, s'il vous plaît, parce que c'est une loi qui est sortie, certes, mais la prudence des clubs, la prudence des directeurs sportifs, elle date depuis de longues dates.
Oui, alors il s'agit d'une loi qui doit renforcer la protection des sportifs mineurs pour les protéger contre les violences sexuelles, notamment. Donc effectivement, ce qui a fait bouger les choses, c'est cette fameuse affaire Abitbol qui avait éclaté en 2020, il me semble, début 2020. Et Sarah Abitbol, qui est une ancienne championne de patinage artistique et qui avait révélé avoir été abusée pendant des mois par son entraîneur de l'époque qui s'appelait Gilles Beyer. Alors cet entraîneur est décédé depuis et donc la procédure judiciaire évidemment n'est pas allée jusqu'au procès puisque l'accusé était décédé. Mais ça, tout cela avait provoqué une onde de choc et les langues s'étaient un petit peu déliées. La ministre de l'époque, Roxana Maracineanu, avait mis en place une cellule de signalement pour que tous les faits puissent être signalés et traités le plus rapidement possible. Mais surtout, ce qui était inquiétant, Sidney, c'est que les enquêtes du ministère qui avaient suivi avaient montré que si dans les faits, une loi était déjà en place et devait permettre de vérifier le profil des éducateurs, dans les faits, cette loi n'était pas appliquée. Il y avait énormément de défaillances. Beaucoup de fédérations vérifiaient de façon insuffisante, voire pas du tout, le profil de leurs éducateurs et confiaient des enfants à des personnes dont le profil était incertain. Donc c'est la loi du 29 février qui a été votée cette année, met en place un certain nombre de mesures qui doivent permettre de corriger tout cela.
Si vous permettez, Richard, avec une expérience... il faut savoir que la direction régionale des sports dans chaque région possède une liste dans laquelle est notée les personnes douteuses. Et il faut savoir que si, dans un club qui se respecte, on ne téléphone pas la direction des sports, eh bien on a tort. Parce qu'il suffit de téléphoner, de se faire connaître ou d'aller se faire connaître sur place et dire ce qu'on représente et avoir, en interrogeant, puis-je embaucher tel entraîneur ou telle entraîneuse féminine ? Et de ça, on donnera oui, vous pouvez, sans problème, non, vous ne pouvez pas. Et comme ça, on se protège déjà.
Oui, alors ça effectivement, sur le papier, effectivement, si les clubs appliquent le principe de précaution correctement, il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, dans les faits, on s'est rendu compte que beaucoup de clubs, voire de fédérations entières, ne l'appliquaient pas, ne mettaient pas du tout la pression. Et surtout, vous le savez comme moi, Sydney, il y a une espèce d'omerta lorsqu'il y a une affaire qui sort, qu'on sait qu'un bénévole ou un éducateur, même professionnel, ça arrivait, a eu un geste déplacé envers un enfant. Qu'est-ce qu'on fait ? Bien souvent, on essayait de mettre le couvercle sur
calmer,
la marmite.
Oui, là, de calmer, de ne pas faire trop de bruit. Effectivement, vous avez raison.
Pour ne pas faire de scandale. Alors, ce qui change radicalement avec cette loi, c'est que dorénavant, les fédérations et les clubs auront l'obligation tous les ans de vérifier le profil de tous leurs éducateurs et pas seulement les professionnels. Jusqu'à présent, ça n'était que les professionnels qui étaient vérifiés. Et là, les milliers d'éducateurs bénévoles vont également être passés au crible, ce qui est quand même indispensable, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les professionnels. Et donc, tous les ans, tout cela sur la base du fichier numéro 2 du casier judiciaire, mais aussi, c'est ça qui est nouveau, sur la base du fichier national des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Pourquoi ? Parce que ce fichier garde en mémoire toutes les infractions qui sont commises, alors que certaines infractions peuvent s'effacer du casier judiciaire au bout d'un certain
justement,
temps.
Justement, si vous permettez, voilà. Richard, d'une certaine époque, et il y a bien longtemps, on demandait les certificats de non-punition avant d'avoir une licence. Et on pénalisait les gens qui avaient subi des pénalisations de prison, par exemple. Ils n'avaient pas le droit d'avoir, dans certaines disciplines, des licences.
Voilà. Après, on peut comprendre effectivement que quand une personne a commis des faits de violence, a fortiori de violence sexuelle, même s'il remonte à un certain nombre d'années, on peut comprendre que qu'il ne soit pas éligible à encadrer des enfants et que la sécurité, le principe de précaution.
Donc cette loi est passée récemment.
Elle est passée le 29 février. Et l'autre mesure forte, c'est que alors. Vous allez me dire, c'est bien joli de mettre en place des obligations, mais est-ce qu'on va contrôler ? Comment mettre la pression pour qu'elle soit appliquée ? Alors, la mesure, les contrôles, théoriquement, vont augmenter sur les clubs, et la pression va être mise sur les présidents qui avaient déjà l'obligation, les présidents de clubs ou de structures avaient déjà l'obligation de signaler des comportements déplacés de certains de leurs éducateurs. Là, ils l'auront toujours, sauf que jusqu'à présent, en cas de manquement, le président n'était pas poursuivi. C'était le club ou la structure qui était passible de poursuite. Dorénavant, ce sera le président personnellement qui pourra être passible de poursuite. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un laxisme et que certains éducateurs mal intentionnés cumulaient même des fonctions dans plusieurs clubs, voire dans plusieurs fédérations, et passaient d'une fédération à l'autre pour passer sous les radars. Il y a certains prédateurs qui vraiment avaient une stratégie de mouvement pour pouvoir échapper au radar. Et à titre d'exemple, il y a eu un espèce de sondage qui a été effectué dans la Ligue Val-de-Loire de football. C'est les sénateurs qui avaient lancé un petit peu cette étude. Et sur 3000 contrôles effectués sur des éducateurs, on s'est rendu compte qu'il y avait 500 défauts dans le profil sur 3000 éducateurs et que 60 d'entre eux avaient déjà commis des délits. Donc c'est quand même des pourcentages énormes. 15% de profils qui comportaient des anomalies et 2% qui avaient déjà commis des violences. On ne peut pas confier des enfants à des gens comme ça.
Richard Gougis, je vous remercie beaucoup de cet éclairage. Radio Viva vous remercie, journaliste du Midi Libre, et merci beaucoup et de nous rendre ce service et de nous éclairer. À bientôt.
Mais... Merci, à bientôt.
Au revoir, Richard.
Radio Aviva.
I was marching to a drum, brat-a-thum, brat-a-thum. Always focused on me, one. Now I wish that I could hold someone. So tell my mama love, call my baby sister. Shoot a hug and kiss her, cause life is just a mystery. And it's gone before you know it. So if you love me, won't you show it? Cause this life is one big symphony. This night is one for you. Skipping rope, keep going, finding solace in the note, do. Had the struggle when I was broke, so low. Writing music just to cope, no hope. Yeah, life is just perspective, laughing when you wrecked it, but smiling when you kept it together. You weathered the storm at the end of the play, you sang all the way. Doesn't matter how off key, if you did it, you win. This life is one big symphony. The flute, see, it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone if it's more suitable. Wanna make you smile, it's been a little while since I've seen the bite of your teeth. Been a hard year, lucky the guitar is here.
page. Votre repère pour les sorties littéraires.
Chers amis, bonjour. Nous poursuivons notre envie de lecture avec la série des dictionnaires amoureux. Et là, je vous ai réservé une petite, non pas surprise, mais enfin une actualité, qui est le dictionnaire amoureux de Molière, qui est écrit par Francis Huster. Alors bon, j'ai un petit regret, j'aurais pu vous parler d'un dictionnaire amoureux un peu atypique, je vais quand même en dire un petit mot, c'est le dictionnaire amoureux de la librairie Mola. Bon, évidemment, la personne qui vous parle est le directeur de la librairie Soramps, mais ça n'empêche pas d'apprécier ce qui peut être fait, évidemment, par un collègue. Seulement, le problème de ce dictionnaire, c'est que il justifie le fait que moi, le dictionnaire amoureux, je puisse en parler, puisqu'il n'est pas dans le commerce, donc il sait faire un petit plaisir. Et c'est très bien, c'est à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Mola. Mais il est quand même très séduisant, ce dictionnaire, parce qu'il est fait de propos d'auteur à chaque lettre. Voilà. Alors, je reviens sur Molière. Tout le monde connaît et en même temps méconnaît Molière, parce qu'à force de trop lire un auteur, on finit évidemment par l'oublier. C'est un peu le paradoxe. Mais c'est vrai que dans le cadre de ses 400 ans, parce que des 400 ans de l'anniversaire de sa naissance, de Jean-Baptiste Poquelin, un dictionnaire amoureux, c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre, entre autres, bien sûr. Et qui plus est, par un homme de théâtre. Et Francis Huster, de ce point de vue-là, je pense que, franchement, c'était la personne qui convenait. Alors, on a évidemment, je dis que c'est un dictionnaire amoureux aussi pour nous, parce que, évidemment, c'est la région de Molière, donc c'est sa région occitane à deux pas, et nous sommes à deux pas de la jolie ville de Pézenas. Donc, vous voyez que, voilà, tout cela s'imposait assez naturellement, et c'est vous dire combien ces dictionnaires amoureux sont tout à fait intéressants, pour ne pas dire passionnants. Alors, est-ce que vous savez que les comédiens avaient maille à partir avec la religion? Oui, évidemment, on s'en doute quand on lit Molière ou quand on nous le fait lire. Il fallait en fait qu'ils abjurent leur profession, qui était considérée comme une profession d'amuseur. Eh bien, s'ils ne le faisaient pas, ils ne pouvaient pas prétendre à un enterrement chrétien. Eh bien, Molière, lui, il se refusera à abjurer et il conservera intacte sa foi, mais dans le théâtre, évidemment. Ce dictionnaire, il comporte en interne, si j'ose dire, dans ses tripes en quelque sorte, un dictionnaire des noms propres. C'est un dictionnaire à tiroir, une sorte de qui fait quoi. D'ailleurs, c'est le terme qui est donné par Francis Huster. Et ce qui fait quoi, il est très précieux. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de mieux comprendre la manière dont le théâtre fonctionne chez Molière. D'abord, il permet de rencontrer les personnages principaux à travers les œuvres, et il vous permet après de voir quelles œuvres vous avez envie de relire pour vous rappeler, non pas votre petite enfance, mais en tout cas votre enfance. Et il permet de constater, par exemple, que Sganarelle et que Valère, qui sont, vous le savez bien, les valets, sont des personnages types que l'on retrouve dans une demi-douzaine de pièces, alors évidemment avec des variantes, puisque évidemment le Sganarelle qu'on voit dans une pièce n'est pas le même Sganarelle qu'on voit dans une autre, et il en va de même, évidemment, pour Valère. Ceci dit, on connaît tous, et on s'en doute, que, évidemment, le côté amusant et amuseur de Molière, évidemment, fait qu'il ne s'en tient pas là, et que, un petit peu comme écrivait Diderot dans l'homme, je ne sais plus le titre de l'œuvre de Diderot, mais en tout cas, on va dire dans l'œuvre de Diderot, il y avait toujours un valet qui, finalement, un processus de retournement, le valet valait mieux que le maître. Voilà. Et en fait, Molière, évidemment, bien plus tôt, fera exactement la même chose. Alors, nous sommes tous capables, c'est ça qui est assez étonnant, de citer des œuvres de Molière et parfois même de retrouver dans nos mémoires des scènes tout à fait truculentes. Si vous imaginez, si vous fermez les yeux et que vous imaginez les scènes auxquelles vous pouvez penser, à mon avis, on retombera quasi sur les mêmes. Exemple, l'avare, mais que faisait-il dans cette galère? Ou encore, ma cassette. Ou alors le Tartuffe. Et là, j'ai à peine besoin de le dire, puisque vous allez dire vous-même, cachez ce sein que je ne saurais voir, l'hypocrisie la plus totale. Et puis le bourgeois gentilhomme. On ne peut pas. Tous les maîtres d'armes, de philosophie, de musique, de maîtres à danser, qui enseignent le ridicule à ce pauvre monsieur Jourdain, qui sera fait en plus grand mamamouchi. Ou encore, le malade imaginaire. Le foie, vous dis-je, le foie. Vous savez, cette critique des médecins qui n'en sont pas et qui trouvent évidemment le moyen de, de donner le sentiment d'avoir tous les remèdes possibles, alors qu'en définitive, ils se résument à fort peu et qu'ils font payer fort cher. Voilà. Et pour autant, au-delà de l'humour, évidemment, et je le disais tout à l'heure, et de tous les excès, Molière, c'est aussi une critique politique redoutable, et c'est peut-être ça aussi qui est important. C'est non seulement une critique politique redoutable, mais c'est une dénonciation des abus. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que c'est un des points les plus importants, peut-être, dans Molière, c'est l'inversion des maîtres et des serviteurs. Voilà. Le bon sens vaut largement une pseudo-intelligence des nantis. Alors, on le résume peut-être un petit peu abusivement, mais on retrouvera ça dans pratiquement toute l'œuvre et toutes les pièces donc de Molière. C'est aussi la défiance d'une tyrannie de la religion et de son hypocrisie. Donc là, elle est vraiment, on retrouve dès que de toute façon on mentionne ou un personnage incarne un curé, un abbé respectable bien évidemment a priori, mais qui cependant se révèle un trousseur de jupons pour ne parler que de cela. Et puis c'est aussi la dénonciation de la bêtise. Alors ça, Molière est très fort. Et c'est la dénonciation d'une bêtise poussée à son paroxysme. Et qu'est-ce que le paroxysme à travers la bêtise? C'est le ridicule. Et c'est vraiment le maître du ridicule, Molière. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs, non pas seulement un amuseur de foule, même si le théâtre à l'époque était certainement différent de la manière dont il est actuellement, puisqu'il était beaucoup en plein air, vous le savez, on s'amusait aussi, au théâtre. Et donc, le théâtre de Molière s'inscrivait donc dans ce contexte particulier. On l'a un petit peu plus, scénographié, polissé. Mais il n'en demeure pas moins que la critique qui en fait toute la vertu, si j'ose dire, elle est présente dans toutes les pièces. Et c'est aussi d'ailleurs ce qui est passionnant dans Molière, c'est que Molière, il peut être lu à tous les niveaux en termes pédagogiques. Et il est évidemment avec un contenu pédagogique de première main. Alors qu'est-ce qu'on aime dans Molière? Si on résume très arbitrairement, je dirais ce qu'on aime dans Molière, le comique de situation qui culmine justement dans ce ridicule. La critique très caustique des pouvoirs en tout genre, l'argent, la religion, l'autorité. Ce qu'on aime dans Molière, c'est la grande liberté de ton et de parole qui nous paraît tout à fait étonnante. C'est aussi la force naturelle des amours. Ça, on en parle pas suffisamment, mais la force naturelle des amours dans Molière, c'est magnifique. On n'arrive pas à détourner l'amour que peuvent avoir deux personnes l'une pour l'autre. Et ça en fait finalement une forme de romantisme avant l'heure. Ça veut dire qu'on a plusieurs niveaux de lecture chez Molière. Et ça, c'est très bien. Et puis évidemment, il faut le dire, et je le mets en dernier, mais c'est pas nécessairement en dernier, c'est le style propre à Molière qu'on reconnaîtrait parmi toutes les autres pièces. Et c'est ce qui fait que Molière est resté un homme de théâtre tout à fait remarquable et qui est indémodable. Et pour en finir, avant que vous ne commenciez la lecture de ce savant dictionnaire, au sens de Molière, une maxime tiré du malade imaginaire et justement qui en montre toute la modernité. Cette maxime, elle est prononcée par une femme au nom tout à fait divin, angélique, et elle nous dit ceci. C'est un méchant moyen de se faire aimer de quelqu'un que de lui faire violence. Et vous voyez, c'est toutes ces petites maximes qui sont chez Molière qui démontrent, s'il en était besoin, son actualité. C'est dire que ce que nous apprécions plus que tout chez cet auteur, c'est l'aspect indémodable et malheureusement, si j'ose dire après cette maxime, sa triste modernité. Il faut donc continuer à lire Molière, il faut continuer à l'étudier, car il promène sur les chemins de la vie ce miroir à peine déformant de tous les vices qui nous font encore souffrir. Voilà, souhaitons qu'il soit toujours le remède indispensable pour contenir la bêtise humaine, à prendre sans modération ni effet secondaire. Amis, amoureux des livres et des dictionnaires, allez au théâtre.
Marque-page, votre repère pour les sorties littéraires.
Chez moi, les forêts se balancent et les toits grattent le ciel. Les ondes étendent sans violence et les neiges sont éternelles. Chez moi, les loups sont à nos portes et tous les enfants les comprennent. On entend les cris de New York et les bateaux sur la Seine.
Va pour tes forêts, tes loups, tes gratte-ciels. Va pour les temps. prends tes clics et tes claques.
Tort et surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence.